Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission des Lessiveuses. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Léa, Julie, Manon et moi. On va parler de deux marches auxquelles on s'est rendu la semaine dernière. On voulait vous partager nos impressions, nos ressentis. On souhaitait aussi parler de notre rapport à la rue et à la nuit. Et comme ce rapport-là a été bouleversé jeudi dernier. Manon proposera le deuxième volet de son triptyque, commencé la semaine dernière, où elle continuera de se poser des questions sur les concepts d'âge, de vieillissement, de vulnérabilité. Moi, je voulais vous parler de différents événements qui m'ont bousculé la semaine dernière et de ce que ça m'a fait. Dimanche 21 novembre. Jeudi 25 novembre. Deux marches que nous entamions dans la ville de Toulouse. Deux marches pour deux commémorations. Deux journées internationales créées toutes deux en 1999. La première, c'était le lendemain du 20 novembre, journée du souvenir trans. Une journée internationale de soutien et de mémoire pour toutes les personnes invisibilisées, discriminées, agressées, assassinées, hier et aujourd'hui par la transphobie. À l'origine de cette commémoration, l'assassinat transphobe en novembre 1998 de Rita Hester. Rita Hester, c'était une personnalité populaire dans le milieu des cabarets à Boston, qui subissait un cumul d'oppression. C'était une femme, trans, afro-américaine. C'est donc aussi, en hommage à elle et à toutes les victimes de la transphobie, que nous avons marché une première fois, dimanche, pour dire stop aux violences. Et puis, jeudi 25 novembre, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Une date qui prend racine le 25 novembre 1960 et dont Léa, tu avais envie de nous dire un mot sur l'origine.
Oui, en France, voire même en Europe, peu de gens connaissent l'origine de la date du 25 novembre. Beaucoup ignorent que c'est un hommage aux sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa. En effet, l'origine du 25 novembre remonte à l'assassinat de ces trois femmes. Le 25 novembre 1960, en République dominicaine, une île située au milieu des Caraïbes, entre Cuba et Porto Rico. Ce pays était alors une dictature très rigide, il y avait notamment une forte répression des communistes et plus généralement des opposants et opposantes au gouvernement. Ces trois sœurs, Patria, Minerva et Maria Teresa, sont issues d'une famille aisée avec un riche capital culturel, ce qui leur permettra d'accéder aux cours de l'université, mais surtout, elles sont issues d'une famille ouvertement opposée au régime en place. Par exemple, leur père refuse d'afficher un portrait du dictateur dans leur maison, contrairement à ce qui était de règle. Donc dans ce contexte, très vite, elles prennent position contre la dictature et veulent notamment agir face à l'injustice des arrestations de plusieurs militants et militantes communistes. La confrontation avec le dictateur Trujillo commence en 1949, lorsque celui-ci invite Minerva à une fête pour lui faire des avances. Minerva, refusant une quelconque relation avec le dictateur, le repousse avec fermeté au bout de plusieurs invitations. Considérant cela comme une humiliation, le dictateur décide alors d'arrêter et de faire torturer jusqu'à la mort le père de Minerva, Hendrik Mirabal. De son côté, Minerva est emprisonnée et refuse de se soumettre aux exigences du régime. Elle refuse d'écrire une lettre d'excuse au dictateur pour être libérée. Toutefois, malgré ce refus, elle finit tout de même par être libérée, mais en restant sous la surveillance du dictateur. Cette libération permet à Minerva de reprendre ses études et de devenir en 1957 la première femme doctorante en droit de la République dominicaine. Mais Trujillo veut tout faire pour l'empêcher de pratiquer. Et c'est cet acharnement du dictateur contre elle et sa famille qui va accélérer son engagement politique. C'est avec ses sœurs, Patria et Maria Teresa, qui ont également à cœur de rétablir une démocratie au sein du pays, qu'elle va participer à l'organisation de réunions clandestines. Ces réunions ont pour objectif de réunir un maximum de personnes afin de préparer une lutte contre la dictature, une révolution. Pour rassembler du monde, des tracts sont créés et distribués, et pour se préparer à faire face aux forces du régime, des armes et des explosifs sont collectés. Au début, c'était difficile de se faire une place au sein des milieux révolutionnaires en tant que femme. D'ailleurs, les trois sœurs sont surnommées Las Mariposas, qui signifie les papillons. Et ce surnom montre bien qu'au début, on s'attarde plus sur leur beauté, leur délicatesse, que sur leur force, leur courage ou leur détermination. Le 14 juin 1959, les sœurs Mirabal et d'autres militants et militantes, dont leur mari et un bon nombre de membres de leur famille, sont à la tête d'une tentative de coup d'État. Mais cela n'a pas abouti. Et en janvier 1960, le régime arrête une centaine de membres de l'organisation révolutionnaire, dont les trois sœurs Mirabel, condamnées à 5 ans de prison. Cependant, derrière les barreaux, le peuple soutient toujours ces femmes, devenues symboles de la révolution. Les trois sœurs, pendant leur difficile période de détention, au vu des pratiques violentes du dictateur, gagnent une popularité et obtiennent, en plus du soutien de l'opinion publique, le soutien de l'Église catholique, qui longtemps était du côté du régime conservateur, et obtiennent aussi le soutien de la communauté internationale. Voyant que les révoltes continuent de plus belle, suite aux arrestations, le dictateur Trujillo libère les trois sœurs au bout de quelques mois de détention, mais avec une idée derrière la tête. De leur côté, Minerva, Patria et Maria Teresa, à peine sorties de prison, reprennent leur activité clandestine d'opposition au régime. Seulement, quelques mois après leur libération, Trujillo accorde le droit aux trois militantes de rendre visite à leurs maris qui sont toujours en prison. C'est alors que le 25 novembre 1960, elles se rendent à la prison et au retour de la visite, elles sont prises en embuscade par des membres du service secret qui les emmènent dans une maison isolée pour les torturer et les tuer. Leurs corps inertes sont ensuite replacés dans leur véhicule qui fut poussé du haut d'un précipice. Particulièrement violent, cet assassinat commandité par le dictateur soulève l'indignation de tout le pays. Les révoltes s'amplifient jusqu'à l'assassinat du dictateur 6 mois plus tard, le 30 mai 1961. D'ailleurs, Minerva l'avait envisagé quelques années plus tôt en écrivant cette phrase puissante. « S'il me tue, je sortirai les bras de la tombe et je serai plus forte. » Grâce à la révolution, des élections démocratiques ont pu avoir lieu en République dominicaine et ce n'est qu'en 1999 que les Nations Unies choisissent le 25 novembre comme date de la journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles et plus globalement c'est une journée contre les violences patriarcales. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal, je vous invite à lire « Les trois sœurs et le dictateur », un livre d'Élise Fontenaille.
Je suis une femme parmi tant d'autres et que tout ce qui arrive aujourd'hui, pour moi, pour l'instant ça va, mais demain je sais pas, et pour l'avenir surtout, et je suis là pour l'avenir des femmes. Renverser la société actuelle qui ne prend pas du tout en considération les femmes et pas que les femmes, mais du coup oui, il faudrait tout bouleverser et donc, effectivement c'est un rêve utopiste, je ne sais pas si on pourra le réaliser un jour. Donc continuer à manifester, monter des assos, monter plus loin, se relier à des groupes qui ont les moyens de faire parler plus haut.
On voit que Savannah a su capter l'ambiance de la marche de jeudi soir, donc on s'y est rendu avec les lessiveuses. On avait envie d'essorer notre colère et de laisser transpirer notre sororité. Je ne vais pas affirmer ici si cette journée était une réussite ou non. Je ne fais pas partie d'un collectif ou d'une asso qui a participé à organiser l'événement. Je n'ai donc pas toutes les clés en main pour comprendre les enjeux et les coulisses de cette journée. Je sais notamment que, depuis plusieurs années, le souhait de marcher uniquement entre femmes et minorités de genre est exprimé par nombre d'entre nous toutes, et que ce n'était pas encore le cas cette année. C'était notamment le souhait d'avoir, le temps d'un soir, une rue, un trottoir, une manif à soi, d'avoir un espace vraiment safe où on n'a pas à devoir s'expliquer, craindre ou recadrer. Je ne dis donc ceci qu'en mon nom, avec toute ma naïveté, que ces deux marches m'ont vraiment fait du bien. Une bouffée d'air. D'abord parce que j'adore ce mauve là partout, ma couleur préférée qui coule et court le long des rues, repeint le Capitole et Jeanne d'Arc, la place Saint-Cyprien, la Dorade, repeint même le Pont Neuf et l'eau de la Garonne jusqu'à Saint-Cyprien. Il y avait du mauve partout, sur les panneaux et sur les corps. Et les fumigènes rouges vifs qui s'imposaient sur les façades et dans le ciel noir, comme pour y inscrire, y graver clairement, définitivement, et très haut pour que toute la ville les voie, « No limits ». Point. Les limites qu'on n'allait plus jamais laisser franchir. Nous toutes, un cri unanime. Nous toutes, des milliers de mains qui s'empilent les unes sur les autres, qui se font la courte échelle, comme pour mesurer la hauteur de cette énergie nouvelle, l'ampleur du projet qu'on ambitionne les unes avec et pour les autres. Toutes ces mains empilées, 2500 x 2 environ, ça fait 5000 mains qui s'empilent, 100 mètres de haut. 100 mètres de haut, c'est bien plus haut que le Capitole. De quoi balayer sa façade et la déboussiérer au vol. Nous toutes, un cri unanime. Portez plus haut par celles qui ont plus de voix. Pour toutes celles qui ne peuvent pas. Pour toutes celles qui n'ont pas pu être là, pas le temps, pas la force, ou mille autres raisons. Il y avait toutes ces voix qui portent le mouvement, qui portent aiguë et grave, qui, avec leurs cordes vocales bien accrochées, aident les voix ténues à se hisser plus haut. Il y avait ces voix qui, chaque soir du 25 novembre, année après année, aident de nouvelles voix à se lever, à trouver le chemin. Toutes ces voix restées trop longtemps dans la gorge, qui jeudi disaient « moi aussi je l'ai vécu, moi aussi je te crois, moi non plus j'en peux plus ». Le dimanche 21, pendant les prises de parole à la fin de la marche, c'était autour des voix, des témoignages et des idées de lycéennes qu'on s'est toutes réunies, écoutées, inspirées. Nous toutes, un cri pour dire qu'on pose aux femmes du monde entier. Qu'importe son âge, son parcours, son métier, le sexe indiqué sur sa carte d'identité, peu importe ses idées, la couleur de sa carte d'adhésion, peu importe sa religion, peu importe qu'elle se dise féministe ou non. Solidarité avec toutes les femmes, parce que toutes les femmes portent sur elles les stigmates du patriarcat. Un cri pour dire aussi que la rue, elle est à nous. La rue de jour, et même la rue de nuit. Et qu'on ne les laissera plus nous l'enlever. Le temps d'une soirée, on s'est prise à rêver. Que tout ça, c'était comme un point final. Un « n'essaye même plus ». Très bientôt, on sera assez nombreuses. Chacune à notre poste. Il y aura au moins une de nous à chaque coin de rue quand tu ouvriras ta bouche pour siffler ou pour faire une remarque de merde à une sœur. Il y aura bientôt une voisine de l'autre côté de chaque mur qui entendra tout, qui se portera témoin et fermera pas sa gueule parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Et comme certaines l'ont déjà fait sur les murs des toilettes au Mirail, on inscrira nos numéros pour dire « appelle-moi si t'as besoin d'aide ou si t'es en danger ». On gravera sur les murs notre sororité. Bientôt il osera plus, bientôt il baissera la tête en nous voyant passer dans la rue. Peut-être qu'il changera de trottoir en se souvenant qu'un jour on était cette femme-là qui l'a harcelée, cette femme-là qui a pas su réagir. Cette même femme désormais forte, fière, féministe et en colère. Le temps d'un soir, on s'est prise à rêver. Puis, on a repensé à ce chiffre. 94 000 femmes victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année en France. Suffit d'une petite division, ça nous donne le chiffre sur une soirée. J'ai pas fait le calcul, mais ça nous laisse imaginer. Pendant que ce soir-là, on se réappropriait la rue, le nombre de nos sœurs qui étaient encore en danger. On s'est prise à rêver et puis, la police est arrivée. Deux personnes se sont faites arrêter, ont subi 18 heures de garde à vue, d'insultes sexistes et transphobes. Pourtant, on s'est prise à rêver, et ça nous prendra encore. On sera chaque fois un peu plus nombreuses à chanter la conscience sin miedo, à dénoncer les Darmanin et les Hulot. On continuera à faire basculer, un peu plus, la rue. Monsieur les agresseurs et violeurs au poste de pouvoir, on finira bientôt par vous rendre tout ce que vous nous avez balancé. Hulot l'a bien vu. La prescription, à nos yeux, ça n'existe plus. Depuis quelque temps, monsieur le patron tremble. Il sait que les journalistes remonteront aussi loin qu'il le faut, qu'importe la date des faits. Toute sa vie, il a abusé sans réserve de son pouvoir. Peut-être rigolait-il parfois avec ses collègues de cette jeune femme qu'il avait à peine forcée, juste un peu encouragée. Il disait aux jeunes femmes « Rentrez chez vous avec votre traumatisme, nous on a du boulot, on a de la politique à faire, des chiffres d'affaires à faire gonfler. » Monsieur l'agresseur, le violeur, nous toutes, on a des choses à vous rendre. On vous rend cette honte trop longtemps contenue, celle de nos sœurs et de nos mères qui est en fait la vôtre, qui vous appartient complètement, que vous nous avez fait avaler de force, cette honte qui nous a donné envie de vomir à chaque fois qu'on essayait d'oublier. Cette honte de se sentir plus coupable que victime. Cette honte-là, jeudi dernier, dans la rue, on vous l'a rendue. Et on vous la reprendra plus. Même la nuit s'est inversée. Désormais, c'est nous qui hantons vos nuits blanches. Depuis quelque temps, c'est vous qui n'arrivez plus à fermer les paupières. Qu'avez peur pour votre carrière, que ces lointains souvenirs que vous essayez de retourner dans tous les sens, que ces lointains souvenirs dont il vous faudra tisser une autre version. Vous avez peur qu'ils ressurgissent et détruisent votre réputation. Tenez, messieurs, on vous rend vos nuits blanches passées angoissées, à tenter d'oublier, de s'inventer une autre version, moins grave et moins traumatisante. ces nuits à peser le pour ou le contre entre notre dignité et notre boulot, à se préparer aux insultes, aux mains au cul, à masquer les bobos. Tenez, on vous rend vos merdes. C'est à vous qu'elles appartiennent. Oui, c'est à vous qu'elles appartenaient et nous, on les portait à votre place pendant tout ce temps. Pendant que vous portiez les courses de votre femme pour faire croire que vous êtes des maris serviables et amants. Certaines ont gardé ça plus de 30 ans. Qu'à cela ne tienne. On vous les rend, définitivement. La nuit s'est inversée. Nous, on reprend la rue, vous, vous reprenez vos saletés.
Je veux tout faire avec toi, je veux rire à en étouffer. On m'a dit qui vivra verra à l'aube de l'éternité. À l'aube de l'éternité, un baume enrobé de malice, un parfum embaumé d'épices, un psaume tournant les hélices de nos vies, c'était un délice. Un jour je ferai mes valises. Danser, dansera la dernière, détruit, détruira la barrière, récit, récit une prière, la lune éclairant la clairière. La lune éclairant la clairière, où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies, parsemées d'émois. Où l'on brisera le silence silencieusement des écailles coincées dans la voix. Où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies, parsemées d'éclats. Où l'on brisera le silence doucement de nos vies, parsemées de foi. Les fois où j'aurais pu bien faire, les fois où j'aurais pu faire sans. La foi laissée au Tout-Puissant, l'abandon de la foi lassé d'être impuissant. Les questions laissées sans réponse, dans un chemin bordé de ronces. L'illusion de la révérence, la menace de la décadence. Comme on avance à tâtons, entendez le bruit des matons, détalés devant les talons. Serions-nous des brebis galeuses, essayant vainement d'être heureuses, à l'ego égaré par le troupeau tout beau. La troupe tire sur la foule, la folie gagne les esprits. Attroupement de fous perdus à la recherche du paradis. La troupe tire sur la foule, la folie gagne la partie. Un monde faux, un monde fini, un monde immonde, immonde et si. Danser, dansera la dernière, détruit, détruira la barrière, récit, récit une prière, la lune éclairant la clairière. La lune éclairant la clairière, où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies, parsemées d'émois. Où l'on brisera le silence silencieusement des écailles coincées dans la voix. Où l'on fumera la cendre de nos tourments, de nos vies, parsemées d'éclats. Où l'on brisera le silence doucement des écailles coincées dans la voix.
Eh bah, ben, c'est beau, Camoun. Et pour continuer dans la poésie, on va vous lire un texte qui a été écrit par notre amie Laura. Laura, elle est dans notre master et elle n'a pas pu nous rejoindre autour de la table aujourd'hui parce qu'elle travaille. Donc Laura, je ne sais pas quand tu vas écouter ça, mais bon courage. Et donc Laura nous a écrit un texte, toujours lié à la nuit et à la nuit quand on est une femme. Elle nous a écrit sa colère, sa fatigue, ou plutôt notre colère et notre fatigue à nous toutes. Son texte s'appelle « Reconquérir la nuit ». Il faut reconquérir nos droits,
nos corps, nos espaces.
Et, dans tout ça, j'ai presque oublié, obnubilé, nié qu'il fallait aussi reconquérir nos nuits. Se réapproprier cette temporalité après 20 heures, qui s'étale jusqu'à 8 heures du matin. Ou plutôt, cette temporalité pas vraiment définie qui s'étend de pas très tôt à trop tard. En réalité, la nuit commence à l'instant où nous ne sommes plus sereines. Au-delà des rues qui, à toute heure, sont envahies par ces regards qui dévorent notre espace, il y a cette crainte plus forte, plus viscérale, qui s'éveille lorsque la nuit tombe, ou plutôt, qui s'abat sur nous comme un mauvais présage. C'est parti d'un rire, d'une réflexion qui disait « Ne me suivez pas, j'arrive jamais à me repérer dans la ville le soir. »
Pourquoi ? Les immeubles sont toujours aux mêmes adresses, les bons restos toujours à la même enseigne, mais la mémoire, plus à la page.
Puis, ça m'a frappée. Je n'ai jamais eu, ou jamais pris, l'occasion de m'imprégner des rues la nuit. Le seul chemin que ma mémoire m'envoie comme un signal d'alerte, c'est celui qui mène à mon appartement. En dehors de ce trajet, tout existe vaguement autour de moi, comme un décor impressionniste.
La seule chose de concrète ?
L'homme en parka noir, au téléphone, balayant l'espace autour de lui.
L'homme en meute, qui convie ses semblables à suivre son regard vers l'objet de son désir.
L'homme à l'arrêt de bus, profitant de l'occasion qui se présente comme sur un plateau d'argent.
Et puis, même cette ombre légèrement décalée derrière moi, a priori la mienne, mais qui, à une certaine distance, ne semble plus m'appartenir. C'est moi qui deviens ombre.
La seule chose de concrète ?
La crainte.
La paranoïa.
Le pas rapide.
Le rythme.
Le temps défile.
Déjà 3 heures.
Il faut accélérer, le rattraper, revenir à ces heures moins problématiques. À ces heures où on est...
presque. Autorisé à vivre.
Pourtant, il y a eu ces nuits, un peu alcoolisées, ou à peine. La force puisée dans un verre levé à la liberté, ou simplement dans une discussion révoltée qui se termine par cette envie de soulever le monde et soi-même. Ces nuits-là, gère.
Je prends mon temps.
Je possède mon temps.
Je m'approprie l'espace. Je claque mes talons sur le pavé. Je regarde autour de moi, par plaisir et non par crainte. Je mets le radar en veille. Je dessine à peine les formes des bâtiments, cartographie les ruelles, prend le pouls de la ville. Et puis,
un sifflet,
au loin,
me rattrape, devient bruit sourd et me perce le tympan. Dans l'autre oreille, un
« Bonsoir »
s'immisce, un
« Bonsoir »
auquel on ne veut pas répondre car il n'est ni bon ni convivial. Il signe le début de la nuit, encore, comme si elle recommençait à zéro et que le matin ne se lèverait jamais.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Cette semaine, je poursuis ma chronique triptyque sur la vieillesse. L'âgisme et la vulnérabilité telle qu'elle est perçue et appréhendée par les femmes dans la société. Je poursuis mes interrogations autour du corps malade et la perception de la personne malade par les autres. J'ai choisi pour cela de me questionner sur la notion de vulnérabilité. Hier, en classe, notre professeur de littérature nous a projeté un court-métrage écrit et réalisé par l'autrice Pauline Delabroix-Allard, qui s'intitule « Voyage en mer inconnue ». Ce film autobiographique s'adresse à sa fille Bertille, qu'elle a eue lorsqu'elle était toute jeune femme. Elle y décrit ses doutes, ses craintes, et on y voit, puisqu'il s'agit d'une œuvre filmée, des corps. On y voit la mère et l'enfant, dans une douche, prendre soin l'une de l'autre. La mère lave l'enfant, puis l'enfant mouille et savonne la chevelure de sa mère. Dans un plan rapproché ensuite, c'est l'enfant que l'on regarde dans un lâcher-prise total de respiration rêveuse, les petits poings serrés contre ses joues. J'y ai vu la rencontre de la mère avec son enfant. C'est-à-dire le moment où la mère rencontre le visage de sa fille dans tout ce qu'il a de vulnérable. Le visage comme autrui. Plus tard, la voix off dit « Se demande ce que Bertille gardera de cette enfance-là, quand elle aura grandi, lorsque son corps se sera étiré dans le temps et dans l'espace. » Lorsqu'elle aura fait d'autres rencontres que celles initiales d'avec la mère, du corps primitif et nécessaire, lorsqu'elles se seront séparées. Elle lui dit qu'elle sait, qu'elle ne lui appartient pas et qu'elle devra vivre d'autres choses, rencontrer d'autres peaux, d'autres yeux, d'autres visages donc. Cela me rappelle la chanson avec laquelle j'ai grandi enfant, « Cécile, ma fille » de Claude Nougaro. Le souffle sur les cils dans le sommeil d'enfant, comme la certitude de bien faire pour un temps, et le prémisse aussi à l'envol, le vent entre les plumes des oiseaux dans la nuit. Alors, la vulnérabilité. D'accord. Mais qui est-elle et comment s'exprime-t-elle? Hier encore, je lisais, relisais des textes de Emmanuel Lévinas, le philosophe qui a pensé l'éthique comme première, primordiale. Et je pensais à mon amie Corinne, à qui j'ai demandé de m'écrire un texte pour aujourd'hui. Emmanuel Lévinas dit que « le visage d'autrui me désarçonne, m'interpelle et me commande de lui venir en aide. Pourquoi ? Parce que le visage fait lien, il fait corps. Il ramène à la responsabilité, car c'est la partie la plus expressive, la plus visible et nue, celle qui montre le plus clairement la vulnérabilité d'autrui. Le visage est donc vulnérabilité parce qu'il rappelle qu'autrui est mortel, qu'il peut mourir à chaque instant et que mon devoir... c'est de lui tendre la main, de le secourir. Le visage possède des traits objectivables, comme un nez, une bouche, des yeux, bleus ou marrons, mais ne s'y réduit jamais. C'est-à-dire que dans la rencontre que je fais avec autrui, il se révèle à moi sans être réductible à une image que j'ai de lui. Des yeux bleus donc, ou un nez de telle ou telle forme. Le visage porte à une acmé, à un paroxysme, cette nudité et cette vulnérabilité. Voir un visage, c'est rencontrer une obligation. L'éthique est un devoir de responsabilité qui nous implique en chaque instant. Elle n'est pas individuelle, elle est plurielle, constante, elle est réfléchissante. J'ai relu Lévinas hier parce que j'ai besoin de comprendre. Besoin de comprendre ce qui m'engage en tant qu'être et en tant qu'autrui, pour autrui, à prendre soin de l'autre, à être responsable quand je fais face à la souffrance d'un visage rencontré au hasard de telle ou telle rue. Pourquoi moi plutôt qu'une autre, ou qu'un autre? Je m'explique. Lévinas n'est pas anodin. On fait lire ses textes aux soignants en milieu hospitalier, où l'on parle d'éthique et de soins, du souci de l'autre, de la nécessité du care. Alors, mon amie Corinne a appris il y a quelque temps qu'elle a un cancer du sein. Elle est une femme d'une cinquantaine d'années, mais je ne retiens jamais l'âge des gens, et jamais l'âge de Corinne, parce qu'elle n'a pas l'âge d'avoir 50 ans. Quand vous la rencontrerez, vous comprendrez. C'est une artiste incroyable, d'une intelligence débordante de gaieté et de mélancolie. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Mais alors que se passe-t-il quand le corps et le visage sont vulnérabilisés par la maladie? Quelque chose qui ne dépend pas de soi. Que se passe-t-il lorsque cheveux et poils tombent, que l'on ne peut plus esquiver ni la pluie, ni le vent? Comment se cacher sans cils du regard des passants? Comment faire face dès lors que l'on est nu? J'ai demandé à Corinne de m'écrire une lettre, parce que c'est ce qui m'a paru le plus évident. ce geste de tension vers l'avenir, vers autrui, autrui qui espère et se tend dans l'attente de la lecture, le geste épistolaire, la plume retrouvée ici. Je te vois, je t'entends, et je te lis à présent. Je pense à toi, Manon, en traversant cette salle d'embarquement, bien remplie. Le sourire aux lèvres derrière mon masque, grâce à nos échanges récents. La tête haute, nue, mais haute. Je les vois les regards. Eux voient la maladie. Ce qui m'arrive à moi, ouf, sont passés au travers. Mes yeux ne peuvent se cacher derrière des cils. Mes expressions tentent à disparaître sans sourcils. Il faut donc regarder au loin, impassible. Et si le dévisagement qui ne rime pas avec « gentiment » traîne en longueur, il faut signifier d'un regard mauvais que c'en est assez. Est-il facile de voir son sexe nu, celui même qui a enfanté 3 enfants et compte plus de 53 printemps ? Non. Non. Sa forme me surprend, sa couleur aussi. Mise à nu totale. Le crâne. Le regard, les jambes, les aisselles, le sexe. Le sein, lui, par contre, est offert à tous. On m'a proposé pour le crâne très rapidement un casque réfrigérant, très difficile à supporter parce que lourd et très froid, et pour le dire, quasiment inefficace. À quoi bon le proposer, donc ? On m'a proposé une perruque, dont 25% du prix serait prise en charge par la Sécurité sociale. Tous les autres couvre-chefs ne sont pas remboursés. Pourquoi ? Je ne sais pas. On m'a proposé un atelier maquillage pour finir le déguisement. Quand j'ai refusé, on a tenté de m'amadouer avec des produits de beauté cadeaux. Apprendre à dessiner des sourcils avec un crayon marron comme au cirque. Mettre de l'anticerne comme un clown. Il ne faut pas avoir l'air fatigué. Tout ça, ce n'est pas pour te sentir belle. Pour te sentir plus belle. Belle, tu sais bien que tu ne l'es plus pour un bon moment. Il s'agit juste de se cacher, de gommer les différences, de ne pas effrayer les gens qui se croient invincibles. Mon crâne vous fait peur ? Mon regard vous inquiète ? Il faudrait que je baisse le regard ? Il vous gêne ? Mais je vous emmerde ? Je suis malade. D'ailleurs, le suis-je vraiment ? Parce que moi, je ne sens rien. On me l'a dit. C'est tout. C'est le remède au mal qui me rend malade. Ça se voit, oui. Oui, évidemment. Je devrais vous épargner ? Non. Épargnez-moi, moi. On devrait décerner une médaille à ceux qui ne scient pas, à ceux qui regardent droit dans les yeux, à ceux qui ne changent pas de comportement, aux enfants, en somme. Alors oui, ça je sais qu'on est vieille. On a l'habitude, et très tôt, de le cacher. Mais ça, je viens de l'apprendre. Il faut cacher qu'on est malade. Cacher qu'on est mortel, en somme. À la gosse, tandis que je déambulais, le sourire aux lèvres. Enfin, le sourire aux lèvres. J'ai senti qu'on me regardait avec insistance. Je m'apprêtais à dégainer un sourcil que je n'ai pas. Mais le regard était doux. Très doux. Et un peu interrogatif. Et c'était celui d'un homme, qui lui, tout comme moi, savait qu'il était en réalité une femme. Et là, j'ai su qu'on était pareil, indéterminé pour les autres, peut-être, mais sûr de ce qu'on était au fond de nous. Les fesses du steward sous mon nez dans l'allée centrale de cet avion qui me ramène chez moi me plaisent. Un peu trop ronde pour l'uniforme qui moule, son pantalon est de fait trop court. Et remonte sur ses chevilles. Ça m'attendrit les chaussettes blanches. Il a la moitié de mon âge et je me demande, moi, qui depuis que je suis asexuée m'assois les pattes écartées en terrasse, ce qui se passerait si je lui mettais une main aux fesses à ce steward, dans l'état où je suis en plus. Je m'assois les jambes écartées donc et c'est confortable. Il faut que les filles le sachent, comme c'est agréable, de ne pas faire attention. Ni à sa démarche, ni à rien d'ailleurs, puisqu'on se sent presque rien, et qu'on ne nous regarde presque que pour constater que l'on a de la chance de ne pas être comme nous, comme moi. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de te le dire, que les produits de beauté qu'on nous propose quand on est malade coûtent très cher, parce qu'ils sont sains. Tu comprends ? On vend des produits malsains au tout venant, et quand le tout venant est malade, on lui vend des produits très sains, mais très chers, et qui ne sont pas remboursés non plus. Par exemple, si tu ne veux pas perdre tes ongles quand tu es en chimiothérapie, il faut mettre un vernis spécial. Enfin, deux vernis spéciaux, en 4 couches, tous les 5 jours. Et nettoyer tout ça avec un produit aussi spécial, qui coûte aussi très cher. Enfin, je t'avoue que je m'amuse parfois aussi, Manon. Parce que la plupart du temps, j'ai quelque chose sur la tête, parce que j'ai froid, ou parce que je dois me protéger du soleil. Hein. Tour à tour, Madame Irma ou Simone de Beauvoir. Mais si j'ai chaud et si je transpire, si ça me serre la tête et si j'en ai l'envie, je reste tête nue. C'est très difficile les premières fois. En fait, ça l'est toujours. Mais c'est merveilleux lorsqu'un regard ou deux regards, comme tout à l'heure, ceux d'un couple tout gris, dans l'allée d'à côté, ne se lassent pas de me fixer, comme si j'étais un animal, une chose. Et là, Manon, quel plaisir d'un geste un peu ample de retirer mon petit bonnet pour exhiber mon crâne tapissé d'un petit duvet blanc par endroits. Si tu voyais comme ils détournent immédiatement les yeux, c'en est trop drôle. Des connards. Ça, c'en est trop pour eux. Mais j'ai aussi en tête cette toute jeune femme au pied d'un phare qui m'a souri d'un sourire large et éblouissant, lumineux, et qui ensuite marchait à ma suite au bord de la falaise. Avait-elle peur que je saute ? Un ange protecteur. J'en ai plein mon sac des regards. L'avion me ramène à ma vie, elle-même en suspens, comme moi, dans l'air en ce moment. J'attends que ça passe. J'attends que l'autre moi revienne. J'en arrive à ne pas me reconnaître sur les photos d'avant. C'était pourtant il y a moins d'un an. Je regarde cette touffe blanche et lumineuse sur mon crâne. J'aime ça et je me trouve canon. Alors quand elle reviendra, cette femme-là, j'ai décidé d'être cool avec elle. Gentille, patiente, d'avoir moins d'exigences. Je l'attends, cette fille. Je suis au taquet.
Thank you.
Voilà, c'était les lessiveuses. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, à partir de 13h15, pour un nouvel épisode. Et je tenais aussi à remercier particulièrement Corinne, mon amie Corinne. Voilà, très bonne journée à tous et à toutes.